Pirlo alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita, buona vista, buona partita, buona partita. Che buona palla per la Carvalho. La gioca, la rete, c'è dal gol. Gol, 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 gol.
Si passa a Milè. Ed è là.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission du vendredi, l'avant-match. On parle bien entendu football européen cette semaine, la Ligue des Champions bien entendu, mais d'abord honneur à l'Afrique, vous le savez. Eh bien, beaucoup de choses à dire à propos de l'Afrique, avec d'abord cette annonce de Mehdi Ben Atia, l'international marocain, le capitaine des Lions de la TAS qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, la prestation d'Achraf Hakimi. Également, on va aller du côté de la Guinée, vous le savez, une équipe qui a des joueurs pétris de qualité, qui n'arrivent pas à s'imposer au niveau, en tout cas à confirmer le potentiel au niveau international. On verra cela avec le nouvel entraîneur et également le nouveau sélectionneur et surtout la star de l'équipe, Naby Keïta, le joueur de Liverpool qui retrouve la compétition après une longue blessure, une absence également. Et on aura dans cette première partie avec nous nos consultants. D'abord Hervé Penaud. Bonsoir Hervé.
Bonsoir les amis, encore il y a une page africaine comme ça, je me régale toujours.
Voilà, donc Simone Rovera est également avec nous, on va parler de la Juve qui va affronter l'Inter, les deux équipes qui marchent plutôt bien. 6 victoires, même si l'Inter reste sur une défaite face au Barça en Ligue des Champions. On va parler de ce match tout à l'heure dans la deuxième partie avec Frédéric Kermel. Mais également, Simone a vu l'international marocain évoluer en Italie, Udinese, la Roma et la Juve. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Oui, il y a plein de choses à dire ce soir.
Et puis également David Lortolari, notre monsieur football allemand. On ira en Allemagne pour retrouver David dans un instant pour évoquer, bien entendu, puisque Mehdi Ben Atia a porté les couleurs du Bayern Munich avec un certain, et voilà, bien sûr, Pep Guardiola, le technicien espagnol qui est actuellement à Manchester City après avoir fait les beaux jours du Barça. Mais d'abord, Hervé, on parle du capitaine de la sélection marocaine. Mehdi Ben Atia a annoncé cette semaine qu'il met un terme, on le sait. Là, il évolue au Qatar après une longue carrière et ses débuts, c'était en France. Il aurait pu d'ailleurs jouer, c'est clairement, mais il aurait pu jouer à l'OM. Mais finalement, il s'est distingué en Italie. On va y revenir dans un instant avec Simone. Hervé, c'est à toi.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un joueur qui avait du potentiel. Hein. Tout le monde savait qu'à Marseille, à la formation, il pouvait réussir à faire quelque chose. Et puis après, un environnement qui n'a pas toujours été facile, peut-être au début de sa carrière, l'a amené à prendre des chemins un peu détournés, à passer par Clermont Foot hein, en Ligue 2 française, pour finalement exploser totalement à l'étranger. Il n'a jamais pu vraiment réussir une carrière en France. Il n'a jamais pu montrer quel était son potentiel et son talent. Donc il n'a même pas frappé à la porte de l'équipe de France à une certaine époque. Sait-on jamais, on aurait peut-être pu l'appeler aussi. Et c'est vrai que c'est un joueur finalement qui est assez peu connu en France par rapport à son histoire, hein, puisque sa formation est française, ami à l'époque hein, de Samir Nasri quand ils étaient à l'OM. Et puis j'allais dire sur le football africain lui-même, ça aurait été un peu avec l'équipe du Maroc, je t'aime moi non plus. C'est-à-dire une histoire parcellée de soucis, de problèmes, les gens le critiquant, estimant qu'il n'avait pas le même rendement en équipe nationale qu'en équipe de club. Mais il a quand même été là dans les moments capitaux des dernières saisons, notamment celle de Hervé Renard avec son but, on se souvient, en Côte d'Ivoire hein, pour cette qualification Coupe du Monde. C'est lui le capitaine de l'équipe qui retrouve la Coupe du Monde. C'est lui aussi qui se qualifie avec l'équipe lors de la dernière CAN. Bon, pour le huitième, c'était pas énorme, mais sur les quarts de finale de la précédente, était un peu meilleur, même s'il est peut-être un peu sur le but du joueur égyptien hein, lors de l'élimination. Alors ça fait qu'il y a toujours un peu cette sensation que Mehdi Ben Atia, il aura peut-être pas apporté tout ce qu'il aurait pu à cette équipe du Maroc, mais c'est quand même un joueur qui était ultra professionnel, qui avait toujours une volonté de bien faire. Simplement, l'environnement était peut-être pas le même. Il a peut-être pas réussi à se mettre de la même manière dans l'environnement marocain que celui qu'il pouvait avoir dans ses clubs, mais ça a quand même été un capitaine important. Je sais qu'Hervé Renard en avait plein la bouche. Il arrêtait pas de dire du bien de lui. Il a toujours considéré que c'était vraiment un pilier de cette équipe et un joueur sur lequel on pouvait compter car il avait une bonne attitude et une certaine manière, une aura aussi sur ses partenaires.
Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de l'Arabie Saoudite, ancien des Lions de l'Atlas, qui a rendu hommage à Ben Attia. D'ailleurs, lorsque Hervé Renard a quitté les Lions de l'Atlas, on a vu la réaction de Mehdi Ben Attia, qui a salué un homme et un technicien de valeur à l'image de Hervé Renard. Nos auditeurs, Abdelhamid Fenneri, qui passe le bonjour à toute l'équipe, et également d'autres auditeurs à l'image de monsieur Abdelzak Labzizi, qui remercie toute l'équipe de Média. Simone et Rovera, on a vu, peut-être c'est là où il a brillé, surtout Udinese, la Roma, sans oublier la Juve, Benhadi Ben Attia. Quelle image on retient de l'ancien international marocain?
On retient une belle image, une image d'un joueur décisif, d'un joueur important, d'un joueur qui a fait une très belle saison à la Juve, la deuxième, je me souviens surtout, deuxième saison 2017-2018, il joue 20 matchs en championnat, il marque des buts en finale des Coupes d'Italie, donc c'est un joueur charismatique, un leader, les seuls points faibles, on peut dire, de son expérience italienne, c'est peut-être comment il a quitté la Juve, sa décision de partir au Qatar, quand peut-être il aurait pu vivre une deuxième partie des saisons en tant que titulaire avec les blessures qu'il y a eu à la Juve. Lui, par contre, avait décidé de partir. Mais ça reste une belle promesse à l'Udinese qui s'est confirmée à la Roma et qui, à la Roma, a attiré l'attention d'un monsieur comme Pep Guardiola au Bayern. Et après, les retours à la Juve, bien sûr, il était toujours le troisième derrière Bonucci et Chiellini, mais quand même, pour un club comme la Juve, c'est quelque chose d'être troisième. Aujourd'hui, le troisième devrait être un certain Matisse De Ligt. Donc, pour vous dire combien c'est important d'être un joueur important à la Juve. Et lui a été sûrement un protagoniste principal à la Roma et un protagoniste un peu moins principal, mais toujours protagoniste à la Juve.
Youssef Laroche, un auditeur fidèle qui passe le bonjour à toute l'équipe. Et également, on le sait, Ben Attia, avant d'aller au Qatar, et avant de revenir en Italie, avait fait une parenthèse. Il est parti au Bayern Munich d'un certain Pep Guardiola. Une image mitigée peut-être parce que le début de Ben Attia a été prometteur, mais la suite a été plus difficile. David Lortolari, c'est notre monsieur football allemand. Bonsoir David. Et également, comment Ben Attia a évolué au Bayern?
Eh bien, il n'y a pas de mystère à faire. Le passage de Mehdi Ben Attia au FC Bayern et en Allemagne a été un passage mitigé, c'est vrai. Mais on en a quand même, et j'en ai personnellement un souvenir assez précis parce que il y a une forme de symphonie inachevée avec la présence de Ben Attia au Bayern, me semble-t-il. C'est un joueur qui en imposait dans ses premières sorties, dans ses premiers matchs, physiquement, dans l'impact, dans la capacité à se projeter vers l'avant. Et on s'est dit à ce moment-là que c'est un joueur qui pourrait s'imposer, comme l'avait fait avant lui Daniel Van Buyten, par exemple, le Belge, dans des qualités un petit peu similaires en défense. Et ça, c'était les belles promesses. Mais le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec Mehdi Ben Attia, comme avec beaucoup d'autres joueurs au Bayern. La confiance qui lui a été accordée était insuffisante. Il n'a disputé souvent que des bouts de match. Et du coup, perturbé aussi par des petits soucis physiques, il a jamais réussi réellement à s'imposer, ni sur le terrain, ni auprès de ses dirigeants et de son entraîneur. Ce qui fait que ça fait un bilan mitigé, alors que, je le répète, les promesses étaient plutôt bonnes et les premières minutes, je me souviens qu'il disputait avec le Bayern, étaient vraiment encourageantes.
On reste avec vous, David, on doit vous libérer, vous êtes pris, mais puisqu'on est avec vous et on parle de l'équipe du Maroc et des internationaux marocains, il y a Achraf Hakimi qui a brillé de mille feux cette semaine. C'est un jeune, il est prêté par le Real au Borussia Dortmund. Il a réussi à marquer deux buts. La saison dernière, on s'en souvient, il avait effectué des buts sur les chapeaux de roue. La fin était un peu plus difficile avec cette blessure, mais n'empêche, il revient au plus haut niveau et confirme en quelque sorte le potentiel qu'on lui connaît.
Ce que je vais vous dire va probablement vous plaire en ce qui concerne Achraf Hakimi, mais c'est je crois la réalité du moment. C'est le monsieur plus, c'est le monsieur qui fait la différence en ce moment au Borussia Dortmund. Il y a un petit peu une baisse de régime sur les résultats, sur l'état d'esprit dans l'équipe qui est un peu moins euphorique qu'on disait que par rapport au début de saison. Et l'homme qui fait la différence en ce moment, et on l'a vu à l'occasion du dernier match, c'est Achraf Hakimi qui arrive de son côté, de son poste de latéral, qui dédouble avec les les formidables joueurs qu'il y a devant, et notamment Jadon Sancho, et qui a été décisif, qui a marqué deux fois dans ce match-là. Et historiquement, on se souvient de d'Adil Ramzi avec le PSV Eindhoven, mais c'est seulement le deuxième joueur marocain à inscrire un doublé en Ligue des Champions. Et ça a été repéré évidemment en Allemagne très nettement, parce que c'est un joueur, encore une fois, qui vient de la défense et qui donc apporte des solutions pour Dortmund. C'est vraiment une solution ponctuelle, cette réussite offensive là, mais c'est vraiment à souligner, parce que Hakimi est vraiment à trouver un bien-être, une qualité de vie, on va dire, dans cette équipe de Dortmund qui fait plaisir à voir.
Voilà, donc David à propos de Mehdi Ben Attia et également de Achraf Hakimi, l'international marocain qui évolue au Borussia Dortmund. Youssef Laroche, Ben Attia a laissé une bonne image, soit avec l'équipe nationale, soit avec la Juve. On lui souhaite bon vent, Zineb El Houma. Bonsoir à Média. Donc voilà pour, en ce qui concerne, bien entendu, l'équipe du Maroc et également la sélection marocaine. On reste en Afrique avant de retrouver Simone Rovera, Inter, Juve. C'était très intéressant. C'était intéressant d'ailleurs. La Juve et l'Inter en Ligue des Champions. Une équipe a gagné, l'autre a perdu. Mais les deux formations se retrouvent dès ce week-end. Un match très attendu. Mais avant cela, on reste en Afrique. Deux informations. Le TP Mazembe qui pourrait, enfin, on parle de partenariat avec l'Olympique de Marseille. Et puis, Hervé, vous suivez le football guinéen, la sélection guinéenne, les internationaux guinéens. Ils ont un nouveau sélectionneur, Didier Essix, l'ancien international français qui vit souvent au Maroc. Et puis également le retour de certains joueurs. Je voulais savoir pourquoi cette équipe, la sélection, ne confirme pas, parce que le potentiel, on parle même plus de la qualité des joueurs, n'est pas à discuter.
Alors l'épisode Paul Put déjà dernièrement, c'était un petit peu du n'importe quoi, hein, ça s'était très très mal passé avec l'entraîneur belge, ça s'est terminé, rappelons-le quand même, hein, sur un entraîneur expliquant que l'adjoint du président de la fédération voulait 10% de ses revenus, enfin c'était du n'importe quoi absolu, c'est encore une affaire qui va se traîner en justice encore un petit peu de temps. Là Didier Six, bah, c'est un choix aussi surprenant, parce qu'il n'avait pas entraîné depuis quelque temps, depuis son passage au Togo, et puis avant il avait été aussi à l'île Maurice. Maintenant c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir, et c'est important de voir un peu ce qu'il sera capable lui de faire. Alors c'est vrai qu'il a souvent habité au Maroc, là il va s'appuyer déjà sur les stars de l'équipe. Alors il y en a certaines qui ne sont pas là, Ibrahima Traoré n'est pas là, alors lui c'est quand même le joueur clé, j'allais dire, puisque Naby Keïta serait le joueur clé de l'équipe, mais il est tout le temps blessé. Alors là il revient de blessure, et logiquement il devrait retrouver sa sélection. Je pense qu'il faut qu'il fasse très attention, ne prenne pas trop de risques avec la sélection pour l'instant, hein, parce que l'équipe de Liverpool, chaque fois qu'il part en sélection, il revient, il est blessé, et c'est un petit peu compliqué pour lui. Il va falloir l'utiliser dans les échéances majeures, importantes, pas des fois sur les matchs comme ça de deuxième zone. Mais il y a quand même, il faut le dire Hakim, il y a du potentiel, mais c'est pas non plus un effectif de feu, hein. C'est une équipe qui a jamais atteint non plus des grandes choses dans les Coupes d'Afrique des Nations. Les équipes de clubs, ça fait très longtemps que ça n'est plus haut niveau, on n'est plus du temps du AFIA. Aujourd'hui, vous avez Oroya qui commence à reprendre, hein, grâce au président de la fédération Soare, effectivement, à reprendre des couleurs dans le foot africain. Mais il n'empêche que, pour l'instant, j'allais dire que c'est une équipe qui a besoin encore de grandir, qui a besoin de se chercher, se trouver des joueurs qui seront un peu des cadres pour l'avenir. Et c'est à Didier Six maintenant d'arriver à trouver, à faire l'amalgame. J'ai vu que là, il a appelé quelques nouveaux joueurs. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Et puis, on le jugera vraiment sur des matchs décisifs. Pour l'instant, il va falloir qu'ils prennent en main cette équipe, qu'ils comprennent un peu les ressorts de cette équipe. Et puis surtout, qu'ils retrouvent un Naby Keïta au top niveau de sa forme. Ça va être capital.
Voilà, on voulait parler du TP Mazembe, mais peut-être ça sera pour la prochaine fois. Vous le savez, le TP Mazembe qui a déjà en partenariat avec Anderlecht et également Clermont Foot, peut-être avec l'Olympique de Marseille, puisqu'on va parler du match entre Lyon et Saint-Étienne. Lyon qui a gagné en déplacement et avec un nouvel entraîneur, bien entendu, côté stéphanois. Mais avant cela, on retrouve Simone Rovera. Avant de parler du choc Inter-Juve, Rapidement, le bilan de la participation italienne. On le sait, la Juve s'est imposée, l'Inter a perdu et Naples s'est contenté d'un nul. Rapidement, Simone.
Ça ne peut pas être un vrai bon bilan. C'est une seule victoire en Ligue des Champions, celle de la Juve. Et surtout, Naples a été décevant face à Genk. Donc, globalement, l'Italie ne sort pas bien de cette semaine européenne. Oui, il y a eu la victoire de la Lazio en Europa League, mais... mais c'était une équipe quand même qui a joué mal, la Lazio. Donc on peut sauver seulement la prestation de l'Inter qui est très très bonne, mais vraiment on s'attendait un peu plus de Naples, de l'Atalanta, de la Roma. C'est difficile de sortir heureux de ce week-end, de cette semaine européenne.
Ben, on a perdu peut-être Simone Rovera, on va le récupérer dans un instant pour parler également de cette rencontre entre l'Inter et l'équipe de la Juve, mais on va parler de ce match du championnat de France. Le Paris Saint-Germain, on le sait, a déjà perdu 2 matchs en championnat. Il a repris des couleurs après cette victoire face au PSG, plutôt face au Real Madrid. Également la victoire à Lyon, Galatasaray. Mais il y a surtout ce match entre Saint-Etienne et Lyon. Les deux équipes ne sont pas au sommet de leur art. Et même si Lyon a gagné en Ligue des Champions, Saint-Etienne s'est contenté d'un nul en Europa League. Mais c'est un match qui promet parce que, eh bien, des changements des deux côtés. Déjà, il y a un changement et peut-être aussi du côté de Lyon dans les prochaines semaines. C'est un match important et qui aura des suites, Hervé.
Oh là 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 là, oui, il y a déjà eu des suites, puisque vous avez vu, ils ont viré l'entraîneur de Saint-Etienne 2 jours avant le match, enfin 3 jours avant le match, puisqu'il vient démis de ses fonctions, et que sur le banc dimanche soir, vous aurez Claude Puel, qui est quand même quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de choses en France, qui a un vrai passé d'entraîneur formateur, et qui est un personnage capable de faire redémarrer cette équipe de Saint-Etienne. Mais à Saint-Etienne, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez deux présidents, l'un qui voulait virer Printemps en lui demandant de partir mais sans indemnité, comme si quelqu'un qui reste un an et demi de contrat, il va dire oh bah vous avez été gentil avec moi de m'avoir donné ce poste, je pars. Donc lui il va maintenant attendre son chèque. Vous avez un autre entraîneur qui tente, un autre président, donc Caiazzo, de l'autre côté c'est Remeyer, Caiazzo qui tente de chercher des entraîneurs à droite à gauche, chacun se tire dans les pattes, et vous avez eu une scène surréaliste hier soir avec l'entraîneur stéphanois, ne sachant même pas si le lendemain matin il devait aller à l'entraînement. Il a dit si, bah visiblement je vais à l'entraînement, puisqu'on m'a rien dit, il allait à l'entraînement pour qu'on lui dise, on lui signifie que c'était la fin de l'opération Saint-Etienne pour lui. Donc Claude Puel, ça c'est quand même une vraie bonne chose pour Saint-Etienne, qui va venir avec peut-être un peu plus d'ambition dans ce derby, parce que le derby, il faut se rendre compte qu'en France, c'est quand même le match choc, le match phare des matchs régionalistes. Hein. C'est vraiment le plus important dans le championnat de France. Parce que de l'autre côté, vous avez Lyon qui arrive, qui était sur une très mauvaise dynamique, mais qui a réussi un coup énorme à Leipzig. Alors, un coup énorme avec beaucoup de... Si ce n'est de la chance, en tout cas, ils ont eu des faits de jeu qui ont plutôt tourné en leur faveur, c'est-à-dire des ratés incroyables des Allemands, et puis des erreurs de défense qui ont permis aux attaquants lyonnais de marquer. Mais il n'empêche que ça a permis surtout à Silvinho de reprendre un peu d'oxygène, parce qu'on savait que l'entraîneur était sous forte tension. On avait vu les déclarations de Juninho, directeur sportif, attaquant à peu près tout le monde dans le club, sauf Jean-Michel Aulas, et les propos de Jean-Michel Aulas expliquant dans une fin d'une interview à l'équipe, un truc très simple, en disant « Silvinho, ce sera un grand entraîneur, ici » ou ailleurs. Donc il y a le ou ailleurs qui veut dire que, évidemment, si ça s'était mal passé à Leipzig et à Saint-Etienne, Silvinho, la tête de Silvinho allait tomber, il y avait de fortes chances. Donc là, il a pris de l'air sur cette victoire-là, mais il n'empêche, et il le sait, que c'est le derby qui va marquer aussi la fin de cette première phase du championnat avant la trêve internationale, et il faudrait pas qu'il y ait un échec majeur pour ce derby. Alors, ça lui permet quand même, je pense, cette victoire à Leipzig d'être un peu tranquillisé pour la suite de son avenir à Lyon. Mais il n'empêche que si vous prenez un 4 ou 5-0 à Saint-Etienne et un Saint-Etienne moribond, là, ça va gronder dans les tribunes et il va être évidemment en première ligne. Donc, ce match-là est très, très important pour les deux, j'allais dire pas les deux entraîneurs parce que les deux clubs, mais pas les deux entraîneurs. Puisque pour Claude Puel, même s'il était battu, personne ne lui en voudrait. D'une certaine manière, une surprise à créer. Puisque s'il venait à faire match nul ou même gagner contre Lyon, bah, tout le monde dirait, ah bah, c'est très bien, Claude Puel a fait le boulot. S'il perdait, tout le monde mettrait ça sur le dos de Ghislain Printemps. Donc voilà, c'est vraiment un match très, très important. Période charnière pour les deux clubs. Et on attend de voir ça avec beaucoup d'impatience. Et savoir même quelle équipe va aligner Silvinho, hein, qui a gagné dans un 3-5-2 la dernière fois. Il y a des joueurs qui ont été mis sur le banc, qui commencent aussi à grincer les dents. Donc tout ça fait met pas mal d'intérêt à ce match entre deux équipes qui sont pourtant assez éloignées de la tête du championnat en ce moment.
Deux équipes en tête du championnat italien, l'Inter, 6 matchs, 6 victoires, et également la Juve, 5 victoires et 1 nul. Lors de cette journée, la deuxième dans la Ligue des Champions, eh bien, la Juve s'est imposée à domicile tranquillement. L'Inter, qui aurait pu mener 3-0 au Camp Nou, a perdu face au FC Barcelone. Et on a vu une équipe milanaise séduisante, peut-être manque de fraîcheur, peut-être aussi le réveil de Lionel Messi en deuxième période. Mais en tout cas, c'est une équipe de Conte qui est capable de faire mal cette saison, Simone?
Qui est capable de faire mal, tu as raison, mais c'est aussi capable de faire rêver. Parce que il faut dire que cette Inter, il y a quelques mois, s'est qualifiée pour la Ligue des Champions à la dernière journée, en tremblant à domicile face à Empoli. La saison dernière, au Camp Nou, jouait un match horrible, sans presque jamais superer la moitié des terrains adverses. Cette Inter a montré d'avoir un autre niveau, un autre ADN, des joueurs de qualité pour sortir les ballons avec des phases de jeu très intéressantes, des jeunes qu'on s'attendait pas à voir au niveau européen comme Barella et Sensi, qui peut-être ont un niveau supérieur à ce qu'on attendait, ou que avec les soins d'Antonio Conte ont déjà franchi un cap. Donc c'est vrai que ces chocs arrivent vraiment au meilleur moment pour le foot italien. L'Inter qui a perdu mais qui a montré un visage magnifique au Camp Nou, et la Juve qui n'a eu presque pas besoin de dominer Leverkusen, qui s'est mis en difficulté toute seule et qui a montré d'avoir plus de muscles que de talent dans cette victoire 3-0 face à l'équipe allemande. On se pose la question, quel est le niveau de l'Inter? Est-ce que ces milieux de terrain va mettre en difficulté aussi la supériorité de la Juve? Est-ce que la défense à 3 avec Skriniar, Godin et De Vrij, qui a bien fait pour l'instant en championnat, seulement 2 buts encaissés, va arriver à mettre en difficulté ou à empêcher à Cristiano Ronaldo d'être décisive? Et après, plein de questions. Mais qui devant pour la Juve? Dybala, Higuain et Lukaku, qui n'a pas joué ce mercredi parce qu'il était blessé. C'est après, aujourd'hui, à 2 jours de ce match, on a plein de questions, plein d'interrogations, et on a hâte de vivre dimanche soir ce match. Et bien sûr, on a hâte de vous raconter qu'est-ce que se passe à San Siro dimanche soir, de lundi, pour l'après-match.
Voilà, donc lundi, on aura la réponse à propos de ces affiches. Et dès la semaine prochaine, il y aura des matchs, on le sait, des éliminatoires de l'Euro. Et la France sera opposée à l'Islande et également la Turquie. On s'en souvient, la France avait perdu face à la Turquie lors du match aller. Didier Deschamps, des nouveautés pour les Bleus, des absences également, Hervé?
Oui, Urbain. Effectif classique, hein, les absences, bon, bah, de ceux qui sont blessés. Sinon, il n'y a pas eu de grandes nouveautés. Vous avez simplement l'interrogation autour de Kylian Mbappé, qui jouera pas avec le Paris Saint-Germain contre Angers lors du choc du championnat. N'oubliez pas, parce que vous me parlez
de l'Inter, contre le deuxième.
Mais moi, je vous parle de PSG-Angers. Ça fait rêver, hein, ça fait rêver les foules. PSG-Angers. Et Kylian Mbappé ne sera pas là parce qu'il a une petite douleur liée à son retour après sa blessure. Alors, c'est pas nécessairement très grave. Alors, est-ce qu'il sera en équipe de France? Ça va être quand même une interrogation aussi. Là, on n'a pas de certitude là-dessus. Mais pour Didier Deschamps, il y a quand même du monde sur le banc. Il y a quand même des joueurs, quoi, qui sont offensivement d'un très bon niveau. Griezmann, il va falloir qu'il reprenne un peu de sa marche en avant, parce qu'on voit qu'en ce moment, ça se passait un peu moins bien à Barcelone, mais lié à un environnement qui est peut-être un peu compliqué à maîtriser pour lui aujourd'hui. Mais ça, j'ai quand même pas trop de questions et pas trop de soucis à me faire sur le talent et le potentiel et sa capacité d'adaptation. Non, cette équipe de France, maintenant, bon, bah, à elle de finir le travail, de victoire, il devrait se qualifier. Donc, on va attendre ça avec pas mal d'impatience. Mais il n'empêche que pour Deschamps, il aurait aimé, et il aimerait, disons, avoir Mbappé dans son groupe. Il l'a dit. On va voir. La décision sera prise certainement un peu plus tard.
Rapidement, Simone, on a parlé de l'Inter. Rapidement, le Milan AC, c'est un match, on va dire, crucial face à Turin. Une nouvelle défaite qui pourrait précipiter le départ du technicien. Rapidement, Simone.
Oui, c'est un match décisif pour Gianpaolo, qui devrait être limogé en cas de défaite ce week-end face au Genoa. Et attention, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de noms qui ont vraiment envie de prendre ce club. Shevchenko a dit non merci, mais la surprise pourrait arriver, parce que si Gianpaolo est viré, l'homme prêt pour prendre le Milan, c'est Luciano Spalletti, ancien entraîneur de l'Inter. Imaginez qu'est-ce que va se passer en Italie si l'ancien entraîneur de l'Inter va au Milan.
Voilà, justement, Spalletti, le nom qui est resté collé à la Juve, l'Inter, plutôt la Juve, la Roma et l'Inter. Merci beaucoup, Simone Rovera. Merci également, David Lortolari, Hervé Penaud. Dans un instant, nous irons en Angleterre et également l'Espagne pour revenir sur les matchs de Ligue des Champions et également une grosse polémique qui doit être dans les buts du Real Madrid. Tout cela dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, la deuxième partie de l'avant-match et on le sait, on a parlé football africain tout à l'heure, football français, italien, allemand. La deuxième partie, l'Angleterre et l'Espagne. L'Angleterre, vous le savez, la Ligue des Champions. Eh bien, Fred le dit toujours. Eh bien, cette semaine, on a eu le score de la semaine, le score de l'histoire, 7-2 pour le Bayern Munich. Et pourtant, le Bayern ne fait pas partie. C'est une grosse équipe, c'est une grosse cylindrée, mais ne fait pas partie des favoris de cette Ligue des Champions. Mais ce temps jamais. 7-2 face aux finalistes de la dernière édition, l'équipe de Tottenham, du coup, Pochettino, l'international et l'ex-international et l'entraîneur argentin qui est sur la sellette. On va dans un instant aller chez Aurélien de Vernoy pour nous parler de Pochettino et également des autres équipes anglaises. L'Espagne, vous le savez, le Real, le Barça, l'Atlético, le FC Valencia. Eh bien, Valencia a perdu sur son terrain 3-0 face à l'Ajax d'Amsterdam d'un certain Hakim Ziyech, auteur d'un superbe but. Également le Barça qui s'est imposé difficilement face à l'Inter. La formation italienne, on le disait tout à l'heure avec Simone Rovira, aurait pu mener 3-0 à la mi-temps facilement. Et puis le Real Madrid accroché sur son terrain après avoir été mené au score 2-0. Et l'Atlético qui est allé gagner en déplacement après avoir été accroché sur son terrain par la Juve lors de la première journée. Frédéric Hermel est avec nous, notre monsieur football espagnol. Bonsoir Fred.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Et on parlait de la Ligue des Champions, mais d'abord, je ne sais pas, c'est une cabale, c'est un acharnement, c'est logique, c'est exagéré. Ce qui se passe à propos du gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, on le sait, a été remplacé l'autre jour, malade, fatigué en tout cas. Il y a eu l'entrée de Ariola qui a déjà joué face à Osasuna, qui a rassuré les supporters, même si bon, il y a eu une intervention, même si eh bien il reste beaucoup de choses à confirmer. C'est quoi l'origine de ces problèmes, Fred?
Beaucoup d'infos à vous transmettre, les amis. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis un moment déjà. Je suis persuadé que à court au moyen terme, Alphonse Areola sera le gardien titulaire du Real Madrid. Alors, au moment où je vous parle, je vous confirme que dans la tête de Zidane, le numéro 1, c'est Courtois. Mais c'est au moment où je vous parle. Et comme me l'a dit une source importante proche du Real Madrid hier, dans le football, tout peut aller très vite. C'est-à-dire que Thibaut Courtois n'a pas réussi à faire son trou au Real en un an. Thibaut Courtois n'est pas forcément très bien accepté, intégré dans le vestiaire. Et surtout, Thibaut Courtois n'est pas bon. Voilà. Au Real Madrid, c'est simple. Il y a deux arrêts à faire par match. Et il faut les faire. Ce sont des exploits à chaque fois. Voilà. Et quand on voit Thibaut Courtois qui, lors de ce match contre Bruges, alors les deux buts sont un peu casquettes, mais il fait pas on peut pas dire qu'il soit responsable des buts. Mais il ne fait pas les miracles que faisait un Navas et que faisait bien entendu un Diego Lopez et encore plus un Iker Casillas. Et il se trouve que mardi soir, il a été pris de maux de ventre, de vomissement à la mi-temps et que Alphonse Areola est entré en deuxième période et qu'il a fait le seul arrêt qu'il a dû faire. La seule occasion réelle de cette équipe de Bruges, c'était un contre un de Denis face à Areola, et il a arrêté.
C'était le tournant du match.
Et donc les gens se disent, Fred, ben, il a sauvé le match, parce qu'à 3-0, le Real ne revenait pas. Et la situation du Real aujourd'hui, puisque Bruges aurait pris les 3 points, le Real se serait retrouvé à 0 points, donc à 4 points de la deuxième place, donc de la qualification, alors qu'aujourd'hui, avec ce nul, il est à 1 point seulement de la deuxième place. Vous voyez le gros changement que ça présente. Donc on peut dire qu'il a quasiment sauvé les chances de qualification du Real pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et c'est ce genre de gardien que les gens veulent à Madrid. En plus, et là je vous parle aussi, je ne parle pas de ce qu'il y a dans les journaux, hein. Moi je vous parle directement des informations directes que j'ai, de l'intérieur, ben, il se trouve que Alphonse Areola parle très bien l'espagnol, qu'il a été intégré tout de suite, c'est d'ailleurs une question que j'ai posée à Zizou aujourd'hui, ben oui, il a été super vite intégré. Et puis, moi, ce qu'on dit, c'est qu'il est très bon. Qu'il est très bon à l'entraînement. Et que ce gardien, aujourd'hui, est totalement préparé pour être le numéro 1 au Real. Et que c'est la raison pour laquelle que si Courtois dans les semaines qui viennent, ne devient pas ou ne redevient pas le gardien décisif qu'il a été il y a quelques années, eh ben il finira sur le banc, j'en suis persuadé.
On rappellera que Arriola est passé par l'Espagne, il a gardé les buts de Villarreal.
Oui,
vous avez assisté à la conférence de Zizou, l'entraîneur, qui était un peu énervé parce que bon, cette question a pris beaucoup d'ampleur. Vous avez posé la question, Arriola et également Thibaut Courtois. Je vous propose d'écouter Zizou et ensuite on retrouve Fred.
Mais il n'y en a jamais de. Enfin, c'est toujours ce qu'on a envie de dire, qu'il y a une hiérarchie. Alors oui, il y a des noms, il y a des machins, il y a tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. Le seul truc, c'est qu'en fait, quand tu es dans une plantille, comme moi, comme je suis l'entraîneur, tu ne peux pas penser en fait et dire lui, il est plus important que lui. C'est impossible. Chacun sait où il est. J'ai pas besoin de le dire. Vous êtes là pour le dire. Mais moi, pour moi, c'est tous les mêmes mecs. Ils s'entraînent tous les jours, ils sont là, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'apporter quelque chose à l'équipe. Et après, c'est moi qui décide, forcément. Je décide et ça va être à chaque fois la même chose. Et les joueurs, ils doivent être prêts. Alors forcément, quand l'autre il me pose la question et qu'il me dit « Mais bon, quand il arrive des gros matchs, en fait, c'est toujours les mêmes qui jouent. » Non, c'est pas vrai. Il y en a qui vont jouer plus que d'autres. Forcément, il y en a d'autres qui vont jouer plus que d'autres. Mais ça peut changer. Et à chaque fois, il faut qu'il soit prêt, c'est tout.
Le fait qu'il s'est intégré hyper vite.
Oui, c'est vrai. Il s'est intégré super vite. Mais parce qu'en fait, il est content, il est allègre, il est content d'être là. Quand tu es content d'être dans un endroit et que tu aimes ce que tu fais, ça marche. Donc c'est bien. C'est bien pour lui, il s'est vite adapté.
Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid. Demain, samedi, le Real affronte Granada, un match à domicile. Un match, est-ce qu'on peut dire dangereux en quelque sorte pour les conséquences, Fred?
Grenade, alors déjà, on va dire une chose importante. Grenade est le co-leader, est le deuxième de cette Liga. Donc, c'est un match super important, bien entendu, parce que le Real peut conforter sa première place. Mais en plus, le problème, c'est que c'est le co-leader, enfin, c'est aussi un promu. Donc, si jamais il n'y a pas victoire du Real, on va de nouveau être dans la crise. Donc, ça, c'est évident. Zidane est un petit peu nerveux, tu trouves pas?
Justement, je l'ai dit au début, Fred. Oui, tout à fait. J'ai dit qu'il était sur les nerfs. La conférence était mouvementée. Il s'est montré offensif. Donc, il n'a pas apprécié certaines questions, genre il y a une équipe type, il y a des remplaçants. Bien entendu, il a bien expliqué. La deuxième partie, on l'écoutera tout à l'heure dans notre journal, parce qu'il dit aussi que forcément, un peu partout, il y a des joueurs qui jouent plus que d'autres. Et c'est normal,
oui.
Après tout.
Mais on va l'entendre, mais il dit. Mais tout le monde aura sa chance, quoi. Donc, en fait, quand il parlait de l'autre, il parlait d'un
journaliste.
D'un copain de journaliste de Radio Marca, qui est un garçon très bien, mais qui fait son travail et qui pousse les questions jusqu'au bout. Et de la même manière que moi, je fais mon travail et que je lui pose la question qu'il n'a pas envie d'entendre, ou en tout cas
qui fait pas plaisir.
Qui l'énerve en ce moment, qui est, voilà, c'est quoi la hiérarchie? Mais on est d'accord que Zidane n'a pas dit la hiérarchie est claire. Courtois est numéro 1 et Areola numéro 2. Non, il veut pas le dire. Parce qu'il ne le pense pas. Mais moi, je peux vous dire qu'il est numéro 1 pour l'instant, mais que ce n'est pas quelque chose de définitif. Et c'est la raison pour laquelle souvent, Hakim, tu vas m'entendre parler le lundi avec Jalal ou avec toi le vendredi de la question du but, du gardien de but. Parce que je sens, parce que je suis là depuis longtemps, que ça va être le grand débat des prochaines semaines.
En tout cas, après le match, il y a Thibaut Courtois, mais il y a également un autre joueur qui a été montré, qui a été critiqué, Lucas Vázquez. Il y a même une lettre adressée à Zidane, comme quoi, enfin, dans le journal Marca et d'autres organes, comme quoi, qu'est-ce qu'il trouve à ce Lucas, qui est un bon joueur, mais pas un titulaire à part entière.
Lucas Vázquez, c'est un joueur qui se défonce.
C'est un lieutenant.
À chaque fois qu'il entre sur le terrain. Voilà. Qui se bat, qui mouille le maillot, comme on dit. C'est impossible de dire ça, mais ça existe. Il ne se plaint jamais. Il est jamais malade. Il est jamais blessé. Il joue à la première minute. Il se défonce. Il entre à la 90e plus 2 minutes. À la 92e, il se défonce. Voilà. Zidane a besoin de gars sûrs. Il a besoin de bons soldats. Et Lucas Vázquez n'est pas le joueur le plus talentueux du monde, mais c'est un excellent soldat. Et ben, quand vous allez à la guerre, vaut mieux compter sur des bons soldats, sur des gens qui obéissent et qui font le boulot, quoi. Moi, je trouve ça, mais lamentable, les accusations contre Lucas Vázquez. Mais c'est-à-dire les mêmes qui n'ont à la bouche que les mots les Espagnols du centre de formation, ceux qui mouillent le maillot. Ils parlent que de ça tout le temps. Et là, ils en ont un parce que Lucas Vázquez a été formé au Real. Il se défonce et là, on le critique. Non, enfin, franchement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent. De l'extérieur du Real, mais aussi de l'intérieur du Real. Et Zizou est vraiment très en colère.
Voilà, donc Zizou en colère, on rappelle qu'il est passé par le Real, il est revenu parce que l'équipe est bien à enchaîner les contre-performances. Le bonjour à Mohamed Ziyan Gharbawi, Polo Adam et également Zineb Houma et qui parle de la raison de pourquoi Zidane est en colère. Eh bien, on a eu la réponse de Fred. Fred, vous restez avec nous. On va parler du Barça dans un instant parce que le Barça a enregistré le réveil, le retour de Messi, de Suarez aussi. Mais d'abord, Aurélien de Vernoy, est-ce qu'on peut parler pour le football anglais, Tottenham qui a perdu sur son terrain face au Bayern 7-2, est-ce que c'est la fin pour l'entraîneur ?
Incroyable quand on sait que Tottenham était finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. On se pose vraiment en Angleterre beaucoup de questions sur les choix de Pochettino également. Le fait de ne pas mettre Eriksen titulaire. Alors certes, il voulait partir à l'intersaison, mais malgré tout, c'était vraiment le moteur du jeu. C'était vraiment l'âme de cette équipe de Tottenham, en tout cas l'âme technique de l'équipe de Tottenham la saison dernière. Il était remplaçant au coup d'envoi. Le choix de sortir Ndombele, qui finalement était celui qui équilibrait à peu près l'équipe au milieu de terrain. Voilà, beaucoup d'interrogations sur Pochettino et l'impression que l'entraîneur argentin manque de solutions, manque d'imagination pour cette nouvelle saison avec Tottenham et que peut-être, eh bien... l'aventure est en train de toucher à sa fin.
Aurélien, vous restez avec nous. J'allais poser une question sur les autres équipes anglaises, mais du moment qu'on a des Catalans, des supporters du Barça en face, à l'image de Saïd, à l'image de Nagy, le Barça, est-ce qu'on peut dire une équipe aux deux visages, une équipe inquiétante, et puis c'est surtout l'Inter qui a été supérieur en première période. Qu'est-ce qui a fait la différence, les changements? Parce qu'on a vu encore, et on en a parlé déjà la semaine dernière, Fred, c'est Busquets qui a été rappelé au bon des remplaçants dès la 53e minute. C'est un signe avec le réveil de Messi. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements? Parce que là, peut-être que le club catalan touche le fond.
Bah, en première période, oui. Ça a été, je vois là un commentaire de mon ami Luis Mascaro, le directeur adjoint du journal Sport, qui parlait d'une domination humiliante de l'Inter en première période. Après, en deuxième période... Alors, on critique tout le temps Ernesto Valverde. Là, il a fait des changements qui ont eu un impact direct. Là, Vidal a été essentiel dans la remontada. Bonne entrée aussi de Dembélé à la place d'un Griezmann. Là aussi, les amis, on va parler d'un de ces cas de la relation Griezmann-Messi. Il faut qu'on passe un long moment là-dessus parce que Messi ne fait absolument rien pour l'intégration de Griezmann. Enfin bref. Et donc, on se retrouve avec un Vidal qui a un peu renforcé le milieu et qui a dynamité un peu tout ça. Le Barça était pas mal en deuxième période. Parce que cette équipe de l'Inter, c'est une formation très solide. Être mené depuis le début, comme ça, revenir au score et marquer, et voilà, et emporter une victoire hyper importante. Oui, le Barça va un petit peu mieux. Et puis, physiquement, Messi, on l'a senti diminuer en début de match. C'est-à-dire qu'on voyait, dès qu'il recevait la balle, un petit mouvement, il donnait tout de suite la passe. Alors que, en deuxième période, on le sentait mieux sur ses jambes, avec plus de possibilités, d'envie de dribbler. Voilà, il s'est présenté contre trois adversaires, ce qui est dans la vie normale chez Messi, mais depuis sa blessure, c'était quasiment impossible. Donc on sent qu'il se va un peu mieux physiquement, il ose plus provoquer les autres.
Après, peut-être le système de Conte l'autre jour, parce que quand même, le Barça est parti en contre, alors que d'habitude, les Italiens sont regroupés. Et l'autre jour, on l'a vu, l'Inter qui allait chercher le Barça dans son camp, même parce que là aussi, on a parlé de Griezmann, peut-être aussi, eh bien, un petit mot sur Ter Stegen, parce que à chaque sortie, il confirme, que ce soit face à Granada, face à Osasuna, face à Borussia Dortmund, face aux grandes équipes, il a toujours... C'est ce que peut-être manque à Thibaut Courtois.
Oui, alors, qu'est-ce qu'on va dire de Ter Stegen? Moi, enfin, parfois, on parle vendredi et je dis le meilleur gardien du monde, c'est Oblak. Et puis le vendredi d'après, je dis, ah ben non, je me suis trompé, meilleur gardien du monde, c'est Ter Stegen. On a en Espagne deux monstres, deux joueurs extraordinaires. Vous avez vu, par exemple, le double arrêt qu'a fait Ter Stegen à Moscou cette semaine. Voilà, en Ligue des Champions, Oblak, enfin, il a lui aussi, il ramène des points à l'Atlético de Madrid. La semaine dernière, dans le derby, la tête extraordinaire de Benzema et cette main fabuleuse d'Oblak. Voilà. Et Ter Stegen a eu un petit coup de mou c'était justement à Grenade. Hein, il avait eu un petit coup de mou, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, il faut quand même reconnaître que sur le premier but de l'Inter, voilà, il n'a pas fait l'exploit qu'il fait d'habitude. Mais comme il a un très gros mental, Ter Stegen, et ben tout de suite il s'est remis dans son match et il a été décisif jusqu'à la fin de cette rencontre. Et cette victoire, elle fait beaucoup de bien, parce que je pense que Valverde aurait été sérieusement menacé s'il y avait eu défaite du Barça.
Ce qui est surprenant, c'est que pour le prix FIFA des gardiens, il n'y avait pas Oblak parmi les 5 gardiens retenus. On parle de la Ligue des Champions. Le football anglais, on a parlé tout à l'heure de Tottenham, le finaliste de la dernière édition, mais les autres équipes anglaises, le bilan, c'est avec vous, Aurélien.
C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour les autres clubs anglais, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. On peut noter quand même la belle performance de Chelsea à Lille. Alors certes, Lille est un revenant sur la scène européenne, c'est pas forcément un gros poisson, mais c'était pas évident pour Chelsea d'aller s'imposer dans le nord de la France. Et ils ont réussi quand même une performance assez intéressante, encore une fois portée par les jeunes joueurs. Alors certes, le but de la victoire est signé William, qui lui est un vétéran de l'équipe, mais c'est Tammy Abraham qui avait ouvert le score pour Chelsea. C'est Callum Hudson-Odoi qui donne la passe décisive pour William. Donc vraiment, l'intégration des jeunes joueurs dans cette équipe de Chelsea se passe plutôt bien, et je pense que Chelsea, c'est une équipe qui va monter en puissance au fil de la saison, que ce soit en Premier League ou en Champions League. L'autre match qui était très intéressant, c'est évidemment cette opposition et ce match assez renversant entre Liverpool et le Red Bull Salzbourg. C'était un peu des équipes qui se ressemblent, puisque Salzbourg, on décrit cette équipe un peu comme la Liverpool d'Autriche, avec ce fameux gegenpressing à la Jürgen Klopp. Liverpool s'est fait vraiment peur parce que il y a vraiment un style de jeu et puis des individualités intéressantes du côté de Salzbourg. On pense évidemment au jeune Haaland qui avait marqué un triplé lors de la première journée de Champions League et qui l'a remarqué quasiment dès son entrée en jeu sur la pelouse d'Anfield. Ça a été compliqué et là il a fallu compter sur le talent individuel des joueurs de Liverpool, sur Mohamed Salah pour aller chercher cette victoire. Il faudra faire très attention hein, quand même pour Liverpool lors des prochaines journées de Champions League, parce que la défense est décidément poreuse dans cette équipe et puis les équipes adverses ne font pas de complexe face aux vainqueurs de la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Aurélien de Vernoy, notre monsieur football anglais. On voulait évoquer le match Barça-Séville, mais on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup Fred, à Madrid.
Merci les amis, ne ratez pas ce match, hein, parce que Séville est très très bien en ce moment.
Voilà, merci beaucoup, on va suivre le match du Barça face au FC Séville, et également le Real qui affronte Granada. Merci Nagy, toute l'équipe de médias, l'équipe technique et à nos auditeurs, excellent début de soirée.
Centralmente, ancora grande idea, vantaggio Juve, a sorpresa con un inserimento alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita per il Vizio, le ballon,
l'avant-match avec Hakim Tamim.